Popol, le podcast politique qui donne la parole aux femmes.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize.
Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce 33e épisode de Popol. Et pour ce 33e épisode de Popol, j'ai le plaisir d'accueillir Aminata Koulibaly Mbengue. Bonjour Aminata.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Eh bien ça va, c'est la fin de l'année, on finit une campagne électorale, donc ça va.
Ah ben, raconte-nous un peu ce que tu fais alors, parle-nous de toi s'il te plaît.
Alors du coup, pour le côté un peu hors militant, je suis étudiante en études nordiques. Je suis en train de préparer ma thèse sur le genre dans les langues germaniques. Donc ça, c'est un peu le côté hors militant. Et dans le côté militant, je milite dans un parti politique qui s'appelle Génération, qui est un parti politique qui a été fondé par Benoît Hamon. Et je suis responsable des questions LGBTI et féministes dans ce mouvement. Voilà.
Et donc, tu étais en campagne. Qu'est-ce que tu as fait pendant cette campagne?
Alors, du coup, c'était la campagne pour les régionales. Je n'étais pas forcément dans l'équipe de campagne parce que je n'avais pas forcément le temps de le faire. Et du coup, j'étais plus la militante de base à tracter, à coller des affiches, à des tracts, etc., etc. Donc voilà, c'était un peu mon travail ces derniers temps.
Génial, merci beaucoup. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Julie Garnier. Bonjour Julie.
Bonjour Léa.
Comment vas-tu?
Eh bien écoute, je crois que je suis à peu près dans le même état que Aminata. Pareil, aussi dans la campagne, enfin en fin de campagne, puisque voilà, nous sommes dans les toutes dernières heures, on va dire. Donc un état de fatigue, mais un état du travail bien accompli.
Cool, raconte-nous alors un peu ce que tu fais toi aussi.
Eh bien, comme Aminata, j'ai fait aussi militante, c'est-à-dire que j'ai œuvré dans un département qui fait juste la moitié de l'Île-de-France, donc autant te dire que les routes, on en a fait plein. Donc moi, c'était pour la France insoumise, et donc voilà, dans ce département, le 77, on sait qu'il y a des grosses questions qui se posent et sur lesquelles la région peut avoir vraiment des impacts très clairs. Je pense aux déserts médicaux, je pense au logement, je pense au repli industriel qu'on voit dans ce département. Et à ça, il y a le carnage social qui est en cours à Grandpuy avec Total, mais aussi il y a quelques mois et quelques années avec Arjowiggins. Enfin, voilà, on voit que le repli industriel est à l'œuvre et que tout ça, c'est des vies derrière, c'est l'impact, ce sont des personnes qui se sentent complètement isolées. Et tout ce qu'on sent, qu'on ressent, c'est-à-dire la crise sanitaire, la crise sociale, la crise politique, eh bien, quand on va sur le terrain, et justement, ce que disait Aminata, c'est-à-dire les militants de base, eh bien, ce sont eux qui prennent le mieux le poumon, qui prennent mieux le pouls en fait, de ce qui se ressent et à quel point toutes ces politiques ont un impact énorme en fait sur nos vies.
Absolument. Donc toi, tu es candidate.
Ouais. Je suis candidate donc pour la France insoumise puisque depuis quelques années, je suis porte-parole de ce mouvement, porte-parole nationale. Je suis simple militante, quoi, on va dire tout simplement. C'est-à-dire que après, à côté de ça, je travaille dans tout ce qui est formation professionnelle. Formation professionnelle, c'est la formation tout au long de la vie dans un établissement public qui s'appelle le CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, qui existe depuis la Révolution française quand même, hein. Donc, c'est pas d'hier. Et donc voilà, moi, mon but, c'est vraiment de faire en sorte que personne ne se sente isolé et montrer que voilà, les services publics sont importants.
Merci beaucoup, Julie. Super, bon courage. Merci Julie. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Léa Ngamba. Bonjour Léa, comment vas-tu?
Bonjour, je vais très bien. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là. Et en plus, mention spéciale parce que j'ai re-regardé un peu le teaser que tu avais posté sur Popol. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu, et ce pourquoi je me suis encore plus identifiée à ce type d'émission, c'est que tu as fait une mention sur Angela Davis. Et j'ai trouvé ça super... super intéressant et surtout inspirant. Parce que comme j'en avais déjà parlé dans différentes émissions, ou comme j'en avais déjà parlé à toi, ce qui compte pour moi en tant que jeune femme engagée, c'est d'être inspirante au-delà des points de vue politiques, parce que là, on va partager des opinions qui seront différentes. Mais en soi, ce que je trouve bien, c'est qu'on soit déterminée et qu'on soit inspirante et engagée pour d'autres jeunes femmes et même des jeunes hommes hein, qui peuvent être inspirés par nous. Donc, pour ça, merci.
Bah écoute, c'était bien normal, moi, pour le teaser, qu'elle soit parmi les femmes que j'avais présélectionnées pour le petit film. Mais en tout cas, merci beaucoup. Tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît ?
Alors oui, moi, j'habite à Clermont-Ferrand, j'ai 22 ans. Je suis étudiante, donc j'ai été étudiante en économie au départ. Et là, maintenant, je suis en classe préparatoire en CAGNE. Donc, pourquoi on va dire la politique ? C'est d'abord parce que j'étais engagée associativement, dans le sens où je suis une des responsables d'une association qui s'appelle Afrique Horizon, qui promeut la culture africaine en Auvergne à travers différents événements, différentes manifestations. Et on veut surtout montrer que ouais, la jeunesse issue d'afro-descendants, on va dire, la jeunesse afro-descendante, elle est aussi capable de faire certaines choses, elle est aussi capable de s'impliquer et elle est aussi capable de montrer les belles valeurs de notre grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je suis aussi engagée dans une association qui s'appelle Solidarité Femmes Immigrées, qui recueille pas mal de femmes qui sont parfois en situation complexe, notamment par rapport à des violences ou ce qu'elles ont pu vivre en tant qu'immigrées qui arrivent à Clermont-Ferrand. Donc, c'est plus ces thématiques-là qui m'intéressent. Et sur le côté politique, donc moi, je suis impliquée à La République En Marche. Donc, certains pourraient se dire, mais c'est bizarre par rapport à ce qu'elle nous parle en tant qu'actrice associative. Pourquoi La République En Marche ? En fait, c'est que moi, je suis aussi responsable donc chez les jeunes avec Macron et je m'occupe de tout le côté parcours adhérent. Donc moi, ce qui me plaît vraiment, c'est l'engagement. En fait, j'adore parler d'engagement. J'adore comprendre pourquoi les gens ne s'engagent plus aussi, pourquoi les gens n'ont plus confiance en la politique. Bah, comme on va en parler, je pense, avec Big Malion ou l'abstention. Il y a plein de points très précis qui font en sorte que les gens s'éloignent. Mais pour autant, en fait, ce que j'ai aimé à la base dans l'essence d'En Marche, c'était que tu sois noir, blanc, que tu sois riche, pauvre, etc., on t'écoutait. Et je pense que ça aurait été dans un autre parti, je ne sais pas, je ne peux pas juger les autres parce que je n'y ai pas été. Je ne sais pas si j'aurais été reçue de la même façon, je ne sais pas si on m'aurait donné la voix de la même façon et je ne sais pas si j'aurais pu analyser ce que j'ai pu analyser grâce à cet engagement-là. Donc voilà, en tout cas, ça me fait très plaisir d'être là et je suis contente aussi de rencontrer Julie et Aminata parce que je pense qu'elles auront plein de choses à partager et que ça sera super. Donc merci.
Génial, merci beaucoup. Alors effectivement, comme tu le disais, on va parler pour ce 33e épisode de l'affaire Big Malion et des élections régionales. On va commencer par le premier thème qui est celui des élections régionales. Les élections régionales et départementales sont le dernier grand rendez-vous démocratique avant la prochaine élection présidentielle en 2022. Pourtant, les urnes n'ont pas été prises d'assaut par les électeurs et électrices, bien au contraire, puisque l'abstention enregistrait dimanche dernier, lors du premier tour de ces élections, un taux historique de 66,7%. Cette abstention est effectivement massive, mais semble encore très difficile à expliquer. Désintérêt politique, défiance, incapacité de la part de la classe politique d'offrir un véritable renouveau politique, sentiment de déconnexion de la part des citoyennes et des citoyens, complexité du système électoral et institutionnel, bref, beaucoup sont les potentielles raisons. Qu'en pensez-vous ? Faisons-nous face à un problème conjoncturel qui serait dû à la période particulière que nous traversons actuellement ou pouvons-nous plutôt parler d'un problème véritablement structurel ? Aminata, qu'en penses-tu ?
Alors moi, j'ai tendance à penser que c'est quelque chose d'assez structurel. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on voit qu'il y a une défiance envers les politiques. Et du coup, c'est vrai que les élections régionales qui ne sont pas forcément des élections qui entraînent les foules, on va dire, et qui ne sont pas forcément considérées comme importantes, même si elles sont très importantes parce qu'elles amènent... les régions ont de plus en plus de compétences en plus, donc c'est quand même très important de voter pour les conseillers régionaux et départementaux aussi. Moi, j'avoue, je suis à Paris, donc parfois j'oublie les départementales, mais il y a aussi les départementales et les conseils départementaux ont aussi un rôle à jouer. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment structurel. Alors, voilà, c'est un peu le fait que les gens ne voient plus en la politique et on le ressent quand on va tracter sur les marchés. Je vais raconter une anecdote. Encore hier, j'étais à un marché dans le 15e arrondissement. C'est vrai que les gens ne prenaient pas les tracts parce que pas intéressés. C'est même pas du côté « Ah ben non, je ne vais pas prendre parce que ce n'est pas mon orientation politique, ce que je pourrais comprendre. Même si je comprends l'abstention, hein, mais ce que je pourrais entendre vraiment en mode « Ben non, je ne prends pas parce que ce n'est pas mon parti, etc. » Là, c'est vraiment de l'indifférence et de la non prise en compte de ces élections. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus courant, en fait. C'était un peu le même cas avec les européennes. C'était le même cas avec peut-être pas les municipales, parce que les municipales, c'est quand même des élections particulières, dans le sens où, certes, c'est des élections locales, mais qui intéressent beaucoup les gens, parce que le maire est quelque chose, enfin, une personne, ou la maire est une personne plus accessible. Donc, forcément, on a tendance à plus être investi dans ces élections-là. Mais c'est vrai que ça fait des années qu'on voit que les taux d'abstention montent et montent et montent. Et voilà, je pense que c'est surtout structurel, mais peut-être une partie conjoncturelle, dans le sens où on ne sait pas trop comment ça va se passer. On a une montée, notamment de l'extrême droite, qui est là et qui, je pense, n'aide pas vraiment dans le contexte. Mais voilà, je pense que c'est surtout structurel. Voilà.
Merci beaucoup, Aminata. Julie, tu partages cette analyse de ton côté ?
Alors, effectivement, on peut considérer que l'abstention est un problème structurel. Il n'est pas un problème de circonstances qui pourrait s'expliquer par le Covid. Voilà. Donc, je pense que le problème de l'abstention est plutôt le révélateur d'une crise politique bien plus profonde. Parce qu'il ne faut pas croire que les gens se désintéressent de la politique. Je ne pense pas. Et nous avons bien vu qu'il y avait des mouvements sociaux qui montraient qu'ils étaient très forts, très longs, et qui ont montré que les gens étaient au contraire extrêmement intéressés par le fait politique. Nous l'avons vu avec les gilets jaunes, bien évidemment, mais aussi avec les mobilisations des jeunes sur le climat, etc. Donc, il ne faut pas prendre cette abstention pour un désintérêt politique. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, il est plutôt dans les institutions et dans la façon dont notre démocratie fonctionne. Et je crois qu'aujourd'hui, vraiment, notre démocratie, non seulement elle a été considérée comme démocratie défaillante, ce n'est pas la France insoumise qui le dit, hein, on voit bien qu'il y a des vrais problèmes de participation, et donc on est classé démocratie défaillante, mais surtout nous sommes une démocratie en soins palliatifs. Et je crois qu'à un moment, il va falloir être en capacité de le dire. C'est-à-dire que ce n'est pas avec des mesurettes comme on entend qui sont soufflées en ce moment avec le vote électronique, par exemple, que nous allons régler ce problème-là. Nous avons fait des propositions depuis plusieurs années déjà, et que nous appelons la 6e République, parce que nous considérons qu'aujourd'hui, les institutions telles qu'elles fonctionnent, les élections telles qu'elles sont organisées, ne permettent pas justement aux citoyens de se reconnaître et de s'exprimer. Et donc, nous faisons tout un certain nombre de propositions. Et c'est pour ça que dès le premier tour, nous avons appelé à une commission d'enquête, parce que nous considérons que ce problème est grave. Je vais redire, tu l'as dit Léa, mais il faut le redire, ce taux d'abstention est le plus élevé de toute la 5e République. De toute la 5e République. Entendez bien. Donc, ce qui veut dire que à quel moment on va prendre ce sujet au sérieux et vraiment regarder quelles sont les causes et pas seulement verser des larmes de crocodile, comme c'était le cas aussi auparavant, en disant « Oh là là, il y a beaucoup d'abstention ». Je crois que ce problème est véritablement sérieux parce que certes, nous sommes en crise sanitaire, nous sommes en crise sociale, nous sommes en crise économique, mais il va falloir à un moment poser aussi la question de la crise politique dans laquelle nous sommes et qui ne date pas d'aujourd'hui. À un moment, il va falloir poser véritablement des solutions. Nous en apportons une, et j'entends qu'elle soit discutée, parce que moi, je veux aussi qu'on en discute, savoir la reconnaissance du vote blanc, par exemple, ou avoir un seuil minimal dans les élections. Également avoir un vrai pouvoir aussi démocratique qui soit donné aux citoyens, par exemple avec le référendum révocatoire. Or, vous n'êtes pas content de vos élus, eh bien maintenant, ne leur signons plus d'échecs en blanc. Disons-leur, si vous ne faites pas le travail et si vous ne faites pas ce pourquoi vous êtes élu, vous pouvez être révoqué. Voilà. Ça, ce sont des armes que l'on veut nous donner aux citoyens, parce que les meilleures armes sont les armes démocratiques, ce sont des armes les républicaines, et donc nous, c'est ça que nous voulons mettre en place. Mais voilà, je crois que c'est pas avec des mesurettes. Je pense que c'est ça qu'il faut vraiment prendre conscience. C'est pas avec le vote électronique qu'on va régler ce problème-là. Et d'ailleurs, dans aucun pays au monde, le vote électronique n'a réglé le problème de l'abstention.
Oui, c'est vrai que c'est important de se poser les questions aussi, de savoir comment on fait pour contrer ce mal et le prendre en considération. Léa, toi, tu vois les choses comment de ton côté?
Alors du coup, par rapport à Julie et Aminata, moi, je n'ai pas réellement fait la campagne. C'est-à-dire que je suis vraiment arrivée à la fin, parce qu'avec mon année, c'était vraiment trop complexe. J'ai suivi un peu de loin, même ce qui était au niveau des listes ou autres. Et du coup, nous, dans ma région, dans ma commune, c'était régional et départemental. Donc, ce n'était pas le côté parisien où vous n'avez pas d'élus départementaux. Mais non, en gros, moi, je suis d'accord avec ce que les filles ont dit. Partiellement, il y a des points où, bon, voilà, je ne suis pas totalement en phase. Mais le point sur la démocratie, en fait, c'est qu'on est très fiers d'être français. On est très fiers de ce que la France diffuse et de son image en général. Hein. On a quand même un beau pays. On a la chance d'avoir certaines institutions que les autres n'ont pas dans les leurs. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas se remettre en question. Ce n'est pas pour autant qu'il y a des choses qui sont parfaites. Et la démocratie malade, ça, c'est le point que je retiens du lit. Et je suis totalement d'accord avec ça. En sachant que l'abstention vient aussi du fait qu'il y a eu énormément de bureaux de vote qui étaient en déficit. C'est-à-dire que moi, j'étais dans un bureau de vote. Le bureau d'en face n'avait pas de président, n'avait pas de secrétaire, n'avait pas d'assesseur. Donc, comment est-ce qu'on fait quand à 8h10, il n'y a aucun des trois et qu'on ne peut même pas ouvrir le bureau? Donc oui, c'est vrai, il y a le côté des intérêts sur... Comme Julie a dit, c'est même pas forcément un désintérêt de la politique, parce qu'on l'a vu sur certains sujets. Moi, je pense encore à Black Lives Matter ou encore à tout ce qui était les questions écologiques, etc. Mais je pense qu'il y a une dissociation entre les sujets et l'influence des politiques. Je ne sais pas si vous voyez un peu où est-ce que je veux en venir. Dans le sens où quand j'ai fait une manif, justement, c'était pour... il me semble que c'était la manif quand il y avait Greta qui était passée. Et moi, j'y étais allée parce que ça m'intéressait, quoi. À partir du moment où les gens ont vu que, genre, j'étais en marche, c'était en mode « dégage de la manif ». Donc, du coup, je me dis, c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont pris par la foule, il y a plein de choses qui touchent les gens et pour lesquelles les gens ont envie de s'impliquer, mais est-ce qu'ils ont envie que les politiques... Enfin, on a envie, parce que je m'inclus dedans, que les politiques fassent des choses, mais d'un autre côté, quand les politiques se saisissent des choses ou veulent s'intéresser aux choses, bah, parfois... on repousse aussi. Je ne sais pas si vous voyez ou si vous pouvez un peu rebondir là-dessus.
Il y a un sentiment d'instrumentalisation ou de clientélisme, voilà, dans une certaine mesure.
Exactement. Alors que bon, parfois, il y a des choses qui peuvent nous toucher nous directement, au-delà de l'aspect politique.
Il y a quand même quand de la sincérité.
Voilà, la sincérité. Mais cette sincérité-là, elle a été salie par tous ceux qui s'en sont servis pour gagner des voix.
Absolument.
Moi, là, je n'ai pas été candidate. Et franchement, je pense que parfois, c'est quand tu n'es pas candidate, malheureusement, que les gens donnent encore plus parfois de crédit à ce que tu vas dire, alors que pourtant, c'est en étant candidate et en pouvant parfois gagner ou aller jusqu'au bout et changer les voix, les lois, etc., que ce qu'on va pouvoir produire va vraiment changer ce qui était là à la base. Mais je pense qu'il y a une dissociation maintenant entre le côté associatif, engagé, déterminé, et le côté engagement politique, alors que les deux peuvent aller de pair, en fait. Juste qu'il y a des politiques qui, depuis 30 ans, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui, comme a dit Julie, on fait des mauvaises choses qui salissent l'image. Donc, il faut réparer ça, mais je reste optimiste. Je pense qu'il y a toujours une chance de construire un meilleur demain pour assurer l'avenir.
Aminata, toi, tu partages l'optimisme de Léa?
J'ai tendance à penser que les politiques, et quand je dis les politiques, c'est notamment les personnalités politiques et notamment celles qui sont au pouvoir et qui dirigent les institutions, sont pas forcément ont pas forcément changé par rapport aux décennies auparavant. C'est-à-dire que, comme tu disais, il y a 10, 20, 30 ans, c'était souvent les mêmes qui faisaient pas forcément des choses pas forcément des choses pour le peuple, je vais dire comme ça. Je suis pas... Je vais rejoindre Julie sur le fait que je pense qu'il faille changer les institutions pour que les gens croient plus en la politique politicienne. Quand je dis la politique, c'est vraiment politicienne, on va dire, dans le sens où les gens sont engagés, les gens croient en des choses, les gens s'engagent associativement, s'engagent dans d'autres formes. Mais c'est vrai que le milieu politique est l'endroit où les personnes s'engagent le moins et de moins en moins. Et je pense que c'est en changeant les institutions, parce que les institutions actuelles, elles ne font pas en sorte qu'on puisse croire en un changement, en fait. Et c'est là où je vais rejoindre aussi les positions de la France insoumise et la génération aussi, on défend ça. Dès la 6e République, qui serait beaucoup plus inclusive, qui donnerait plus ce pouvoir au peuple et moins forcément aux politiques qui sont là depuis des années et des années. Donc voilà, moi je pense que le changement, il doit se faire de cette manière et pas forcément en faisant des petites mesures au niveau des institutions actuelles qui, je pense, sont totalement obsolètes.
Merci beaucoup. Julie, veux-tu, tu voulais réagir ?
Oui, parce que j'admire véritablement l'optimisme de Léa, mais l'optimisme, il doit s'accompagner de moyens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas… Et là, je retrouve un petit peu quand même les éléments de langage macroniste, c'est-à-dire dans le sens où on fait des belles phrases, mais c'est des belles phrases qui deviennent très vite très creuses. Parce que moi, ce que j'attendrais, par exemple, et notamment… de la part du parti qui a le gouvernement et qui a la présidence, c'est de savoir quelles sont véritablement les propositions que vous faites pour que cet optimisme soit partagé. Parce que pour l'instant, je crois que clairement, il y a peut-être que vous qui êtes optimiste. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne vois pas quelles sont les raisons d'être optimiste. Ce que je vois, c'est quand on parle de se saisir des sujets, il faut se saisir des sujets, mais s'en saisir de manière, j'ai envie de dire, intègre, c'est-à-dire honnête. Par exemple, quand je vois, quand, par exemple, Emmanuel Macron a voulu se saisir du sujet des retraites en nous disant que ça serait quelque chose qui serait universel, juste, social, etc. Il réemploie des mots. Mais qu'est-ce qu'on voit dans les faits? C'est que c'est bien tout l'inverse qui se produit. Par exemple, je ne prends que l'exemple des retraites parce que pour moi, c'est le plus significatif et c'est celui qui peut parler le mieux. Quand on parle d'universalité, de justice sociale, etc., mais qu'on est incapable de citer un seul exemple dans un seul pays du monde entier, donc je suis plutôt large sur les exemples, eh bien on voit qu'il n'est pas capable de dire que ce système de points a été une amélioration pour les femmes notamment. Non, ce n'est pas le cas. Et quand on prend l'exemple de la Suède, qui était l'exemple qui était le plus repris, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'en Suède, ce système de retraite a été le plus défavorable et au contraire a fait basculer dans la pauvreté bien plus de retraités que ce n'était le cas avant. Donc voilà, moi, ce que je constate quand même, c'est qu'il y a une façon de se saisir des sujets et à un moment, les gens veulent du concret. C'est-à-dire que les belles phrases toutes faites avec plein d'entrain et les meilleurs sentiments, eh bien, on voit que si ce n'est pas suivi des faits, si ce n'est pas suivi des moyens, eh bien, malheureusement, ça tombe vite en fait sur une trahison. Et malheureusement, les sujets sont bien trop nombreux. Ce n'est pas d'un cas dont je parle, pas que des retraites, mais on peut parler aussi de la cause des femmes, qui, pareil, devait être soi-disant de la grande cause. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'aujourd'hui, les féminicides continuent et que les moyens, que le fameux milliard qui avait été demandé n'est toujours pas mis sur la table. On le constate aussi avec les violences policières. Oui, il y a un sujet des violences policières. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on a un président qui le dit du bout des lèvres, mais qui ne prend pas en cause, en acte véritablement ce qu'il se passe. Or, ce dont nous avons besoin, c'est d'une police dans laquelle nous pouvons avoir confiance. Mais pour que nous puissions avoir confiance, il faut qu'elle puisse rendre des comptes. Et ça, ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est plein de mots comme ça, de thèmes, de considérations qui sont extrêmement importantes. Et les départementales, oui, c'est aussi un sujet important. Et je pense notamment dans le 92. Dans le 92, il faut savoir qu'une compétence départementale, c'était l'aide sociale à l'enfance. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est qu'il y a des centaines d'enfants, de gamins, de mineurs qui n'ont personne, qui n'ont pas de référent, qui n'ont pas d'éducateur parce que l'État n'a pas mis les moyens non plus derrière. Bref, les sujets sont trop nombreux et beaucoup trop sérieux pour qu'on puisse se limiter aujourd'hui à des éléments de langage. Les gens ont besoin de réponses, de concrets. Et donc, là-dessus, je considère que malheureusement, les trahisons ont été bien trop nombreuses. Et c'est pour ça que nous parlons de référendum révocatoire. Le référendum ADP aussi, sur lequel Emmanuel Macron s'était engagé, n'a pas eu lieu non plus. Bref, vraiment, je pourrais vous faire la liste, mais vraiment, il faut comprendre que je ne suis pas à la France insoumise parce que... Voilà, mon papa n'est pas Jean-Luc Mélenchon, hein, ma maman n'est pas Daniel Simonet. Je suis venue à la France insoumise parce que je fais partie de ces citoyens qui, à un moment, se disent on n'en veut plus de longues promesses, on n'en veut plus d'éléments de langage, on veut du concret dans nos vies, on veut que l'intérêt général soit mis dans les politiques et non plus les intérêts particuliers.
Merci Julie. Léa, je te laisse réagir oui, et je conclure. Et conclure sur ce thème, on passera au deuxième thème après, s'il vous plaît.
Pas de souci. Bah, du coup, merci Julie et Aminata pour vos retours. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est déjà dans un premier temps, quand on me parle d'intégrité et qu'on parle directement en citant Emmanuel Macron, je vais parler de Jean-Luc Mélenchon. Hein, lorsque le 11 avril, en pleine crise sanitaire, il part en voyage en Bolivie, est-ce que ça, c'est être un représentant du peuple? Non, mais je suis désolée, Julie. À partir du moment où on cite des faits concrets, où on explique le ressenti du peuple et ce pourquoi le peuple n'a plus confiance en la politique, ça vient aussi de certains. Tu me disais tout à l'heure, oui, des belles phrases, des phrases remplies d'optimisme, mais il n'y a pas de concret derrière. Encore heureux que je sois optimiste, je ne suis pas engagée dans un mouvement politique qui existe depuis des années. Des 30 ans, des 40 ans. Donc, j'espère bien que moi, à 22 ans, j'ai encore de l'optimisme et de la foi et que je crois en mon pays. Parce que si jamais, moi, je n'y crois pas, qui va y croire ? Enfin, ce n'est pas des personnes qui existent et qui sont là depuis 40 ans dans le système qui vont y croire. Donc, non, je ne pense pas juste qu'il faut se mettre face à face en disant « Vous, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela », parce qu'il y a des personnes de ton parti et de ton mouvement qui ont aussi eu certaines clés à certaines périodes dans notre République et qui ne vont pas forcément « Ah bon ?» Ah, Jean-Luc Mélenchon n'a pas été ministre? Ah, mais bon, mine de rien, ça a été le cas. Enfin, donc, non, je pense que c'est aussi important de se dire, oui, il y a des défaillances, oui, on peut rebondir là-dessus. Quelles sont les propositions concrètes qu'on peut mettre dessus? Comme toi, tu l'as évoqué, nous, on voulait mettre en place une réforme de la Constitution qui a été passée... Oui, mais peu importe que ça soit que Jean-Luc Mélenchon ait été ministre de l'enseignement professionnel, etc., il a quand même pu essayer de faire des choses à ce ministère-là. Donc, à partir de ce moment-là, si les choses ont été cohérentes et concrètes ou pas, ça montre que depuis une trentaine d'années, il y a eu des responsables de ta classe politique qui ont aussi été investis dans un système que tu dis défaillant. Donc, c'est bien trop facile de venir et d'acculer un mouvement qui vient d'arriver, qui essaie de aussi comprendre comment ça se passe, qui essaie de changer les choses et de revoir notre fonctionnement pour... juste, on va entre guillemets taper dessus. Et l'autre point sur lequel je voulais rebondir, la loi sur la moralisation, c'est une des deuxièmes lois qu'on a mises en place. La réserve parlementaire a été supprimée aux députés. Combien d'argent ? Ça fait combien d'argent la réserve parlementaire aux députés et aux sénateurs ? C'est pas des choses concrètes, ça ? Faire en sorte que ça change. Après, ça n'empêchera jamais les dérives, bien entendu. Comme il y a des personnes, on leur dit de pas traverser au feu rouge, bah ils le font quand même. Mais on a essayé de mettre en place quelque chose de concret. La loi sur la moralisation, la loi pour la confiance en la vie politique, ça, c'est quelque chose de très concret. Et personne ne pourra dire le contraire là-dessus.
Alors, ça, c'est intéressant. Ça me fait une belle transition aussi, parce qu'effectivement, on a quand même le sentiment que depuis un certain nombre d'années, la classe politique ne se permet pas autant de choses qu'elle se le permettait, notamment en 2012, lors de l'affaire Big Malion, et c'est ce dont on va parler maintenant. Un mois de procès, 14 prévenus, dont un ancien président de la République, et 48 millions de dépenses électorales. Car c'est ça dont il s'agit dans l'affaire Big Malion, des dépenses exorbitantes engagées pour la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Au-delà d'être exorbitantes, ces dépenses sont illégales, puisqu'elles dépassaient largement le plafond légal de l'époque, fixé à 22,5 millions d'euros. Ce dépassement a pu être réalisé grâce à un système de fausse facturation mis en place entre l'UMP et la société de conseil Big Malion. Mais qui a réellement pris les décisions ? C'est ce qu'ont cherché à déterminer les juges lors de ce procès dont le verdict sera rendu fin septembre. Du côté des prévenus, le tous pour un de la dynamique de la campagne a laissé place à un chacun pour soi à la barre lors du procès. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que le système de plafond légal de dépenses doit être revu ? Est-ce que cette affaire peut avoir des conséquences politiques, notamment au sein du Parti des Républicains ? Et enfin, est-ce que ce type d'affaire est de nature à alimenter davantage la défiance du peuple à l'égard de la classe politique ? Julie, qu'en penses-tu ?
Alors, c'est difficile de commenter une affaire. En général, je n'aime pas commenter l'affaire en tant que telle parce que je n'ai pas tous les éléments, je n'ai pas assisté au procès et donc c'est encore en cours de justice. Par contre, ce que je peux commenter, c'est l'impact qu'il y a autour de cette affaire. Et autant dire que, bien évidemment, la défiance envers le monde politique ne peut être que renforcée. C'est-à-dire que ces responsables politiques ont une responsabilité, effectivement, mais pas que sur les affaires en tant que telles, sur aussi l'image que ça engendre. Et on peut dire que, malheureusement, les gens, quand ils voient cette affaire, ils se disent une de plus. Voilà. C'est exactement ça qu'ils sont en train de se dire, parce que les exemples, il y en a beaucoup. Et je crois que malheureusement, tant que nous ne changerons pas les règles du jeu, nous aurons encore des affaires. Nous voyons avec les comptes de campagne 2012, je pense que 2017, il y aura peut-être des choses à dire aussi, mais malheureusement trop tard. Et puis, on voit également toutes ces affaires qu'on a actuellement avec, avec Richard Ferrand de Rugy. Je pense aussi à Ludovic Mendès, Delevoye aussi, hein, qui n'a pas toujours déclaré ses revenus, à Hugues Bellet, à Bayrou, à Lila Merabi, bref, Olivier Dussault aussi, qui est ministre actuellement. On voit que les affaires sont extrêmement nombreuses, et donc c'est pour ça que nous, ce que nous disons, c'est pas tant les personnes en fait, que nous visons, c'est plus le système qui permet encore aujourd'hui de pouvoir avoir ces affaires et qu'elles ne soient jugées qu'à posteriori. Et encore des fois, très difficilement, il faut qu'il y ait une saisine, j'ai envie de dire, populaire pour qu'on parle de certaines affaires. Là, je penserai un petit peu plus particulièrement à De Rugy, où véritablement, s'il n'y avait pas eu des photos, s'il n'y avait pas eu toute cette prise en compte, eh bien, ça serait des affaires dont on n'aurait pas entendu parler. Et ça, je crois que c'est extrêmement grave. On a besoin aujourd'hui de retrouver confiance dans la politique. Et ça passe par plusieurs mesures et pas seulement par une simple loi. Je crois que clairement, nos institutions aujourd'hui sont dépassées à plein d'égards. On l'a vu dans le sujet précédent avec l'abstention. Mais je crois qu'aussi ces affaires n'arrangent pas non plus ces affaires politiques. Et il faut qu'on puisse avoir tout simplement confiance. Et donc le fait qu'on puisse révoquer les élus, qu'on puisse leur demander des comptes, que la transparence soit une réalité. Et aujourd'hui, on en est encore loin, malheureusement. Nous en avons cruellement besoin pour tout simplement que la démocratie ne soit plus défaillante, mais soit parfaitement efficace.
Léa, toi, est-ce que tu es choquée de voir que c'est un ancien président de la République qui est à la barre ?
Je trouve ça quand même assez particulier pour notre pays, oui, bien entendu. Après, comme Julie l'a dit, on n'est pas forcément apte à juger quoi que ce soit. Et déjà, nous ne sommes pas une quelconque autorité judiciaire. Et en plus de ça, on n'a pas tous les éléments. Mais par contre, moi, ce qui m'a surtout surpris, c'est que à cette époque-là, dans tous les cadres, personne ne s'est dit « je vais dire non » à Nicolas Sarkozy.
Ouais, parce c'est que, vraiment bien entendu, processus décisionnel, la chaîne de décision qui est en mise en cause. Ouais.
C'est ouais. Ça, c'est-à-dire que c'est sa signature qui est sur les documents et personne ne lui dit « non, en fait, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ce que tu fais, c'est mauvais, que ça soit pour toi, pour nous, les 14, et aussi pour la France, c'est grave. » Donc, au-delà de ça, est-ce que on pourrait pas se mettre à la place de personnes qui eux n'auront jamais ce type de fonds entre leurs mains et qui se disent candidat à la présidentielle lui-même il veut m'endormir quoi. C'est-à-dire que ça passe par des grands meetings, ça me met de la poudre aux yeux alors qu'au fond il s'en fout et il comprendra jamais ce que moi je ressens, ce que moi je vis. Donc oui, ça pose différentes questions. Et puis il y a aussi le rôle des médias. Dans tout ça, bon là on est sur un média, donc ça nous fait toujours plaisir d'avoir la parole là-dessus. Je pense que c'est bien de pouvoir dire aux gens quelle est la réalité, mais est-ce que dans la façon de le dire, parfois, ça ne crée pas non plus, je dirais pas une distance, parce que la distance elle est créée d'elle-même lorsque le politique a un acte irrespectueux envers lui, envers la démocratie, mais je dirais alimenter la polémique, c'est-à-dire refaire un lien entre les faits concrets qui ont lieu, oui, mais est-ce que toujours amener des gens sur les plateaux qui vont encore, je ne sais pas comment amener le propos, mais dire...
Oui, polémiquer, quoi, c'est ça. C'est
voilà, polémiquer, et aussi la durée, parce que ça date de 2012, ça a commencé à sortir en 2014, 2016, etc., et en fait, à chaque fois, il y a quelque chose de plus. Donc, Julie disait tout à l'heure, encore une affaire de plus, mais même quand dans une affaire, il y a encore des affaires à l'intérieur, je pense qu'on n'y comprend plus rien.
Oui, c'est vrai que c'est une affaire qui est d'ailleurs très compliquée et qui implique énormément d'acteurs, du monde politique notamment. D'ailleurs, ça c'est un point que j'aurais aimé aborder avec vous. Aminata, est-ce que tu penses que ça peut avoir des conséquences politiques, cette affaire ?
Je pense que ça alimente la défiance, en fait, tout simplement. Je ne sais pas comment l'expliquer d'autre parce que je pense que c'est relativement simple et il n'y a pas besoin de faire de parler de grands discours pour dire qu'en fait ça alimente cette défiance, que les conséquences politiques, je ne sais pas quelles seront pour les Républicains, parce que sans vouloir leur casser du sucre sur le dos, ils ont quand même pas mal d'affaires, que ce soit enfin, anciennement l'UMP, etc. Ils ont quand même beaucoup, beaucoup d'affaires. Je ne pourrais même pas les citer tellement que...
Nicolas Sarkozy était impliqué jusqu'à récemment dans 12 affaires.
Voilà, bon, rien que lui. Et il est pas seul. Mais voilà, c'est dire à quel point il y en a. Et je ne sais pas quelles conséquences ça aura, parce que finalement, les Républicains ne sont pas... Pas à partie mort, hein, faut le dire aussi. Mais et je pense que les sympathisants républicains vont pas. Je suis désolée, mais ils sont pas à une affaire près. Et au moins ça c'est dit. Mais c'est vrai qu'il voilà, ça alimente cette défiance, ça alimente le côté tous pourris, entre guillemets, qui est dit et redit par, par beaucoup de gens. Et sur le terrain, bah, c'est nous, militantes, militants, qui reprenons ça dans la tronche, hein, faut le dire aussi, où on nous sort toutes les affaires des chefs politiques, entre guillemets, qui ressortent à chaque fois. Et on nous dit tous pourris, alors que voilà, c'est pas... J'ai tendance à penser que c'est pas le cas quand même, et j'ose espérer que c'est pas le cas. Mais voilà, ça alimente cette défiance. Et puis, bah, pour les Républicains, je ne sais même pas quelles conséquences ça aura, parce que...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Parce que, et c'est pas le seul parti, hein, mais c'est vrai que c'est un des partis déjà qui est assez, assez vieux, donc qui peut aussi, qui a eu le temps de, qui a eu le temps d'avoir des casseroles aussi, il faut le dire comme ça, mais voilà, c'est pas... Je ne pense pas que ça va changer la face du monde. Ça sera juste une affaire de plus. Et Big Malion, comme l'histoire de la Libye, comme bah, les 12 histoires pour Sarkozy, mais ça a été cité avant, il y a Bayrou, il y en a d'autres. Il y a plein d'autres politiques qui ont plein de casseroles comme ça. Bah, ça alimente juste cette défiance et ça fait juste... Bah, ça donne un argument sur... sur le côté, bah regardez, ces politiques, ils font des choses pour eux, mais pas forcément pour le peuple. Ce qui est dommage, parce que je pense qu'il y a plein de politiques qui croient vraiment, qui font des choses, que ce soit à l'Assemblée nationale, on n'en parle pas forcément, que ce soit dans les conseils départementaux, régionaux, les conseils municipaux, etc. Il y a plein de gens qui font plein de trucs. Et ce n'est pas assez mis en valeur parce qu'on a certains qui, je pense, sont une minorité qui, bah, qui amènent des affaires comme ça. Voilà.
Et qui ont tendance à attacher un peu l'ensemble de la classe politique, c'est bien vrai. Je vous remercie beaucoup toutes les trois. Si ça vous va, on va passer à vos actualités. On va commencer avec toi, Julie. De quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît?
Alors moi, je vous ai ramené un livre. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. C'est un livre qui est sorti en 2017, que j'avais déjà acheté. Donc, c'est un livre sur Vincent Bolloré. Alors, on parlait de traitement médiatique avant, donc super. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce livre. C'est une enquête qui a été réalisée par deux journalistes, donc Nicolas Vescovati et Jean-Pierre Canet. Et donc, c'est un petit peu sur l'empire de Vincent Bolloré. Et on va dire que comme c'est un personnage dont on parle encore aujourd'hui, et c'est pas étonnant quand on voit déjà ce qui est dessiné là-dedans, c'est que c'est un personnage extrêmement sulfureux. Et aujourd'hui, je trouve que c'est très préoccupant l'OPA qui est en train d'être réalisé par cet homme sur les médias. On parle déjà de l'esprit canal, on parle aussi de toutes ces affaires en Afrique notamment, voilà, qui sont extrêmement douteuses. Il faut savoir quand même que depuis que cette enquête a été publiée, il n'y a eu aucune plainte en diffamation parce que voilà, ce qui est dit là-dedans n'a jamais été démenti jusque-là. Donc, redécouvrez-le parce que c'est un livre qui date de quelques années, mais qui est encore, je trouve, extrêmement d'actualité. Vraiment, je trouve qu'on parlait des médias. Les médias, il faut le rappeler, c'est aussi un des piliers de notre démocratie. Et on voit qu'aujourd'hui, ces médias sont cooptés par une poignée de milliardaires. Je crois que le traitement médiatique qu'on a dans notre pays actuellement est affligeant. Je ne peux pas le dire autrement, c'est affligeant. On a des mises en garde du CSA face à CNews. Rien n'est fait, rien n'est dit. C'est une catastrophe. Et donc, je crois qu'en plus, là, avec la grève qu'il y a Europe 1, justement sur l'OPA aussi, qui est lancée par Bolloré, sur toutes les démissions, sur les licenciements qui ont été faits, je pense à Sébastien Thoen, voilà, je pense aussi, bon, bref, il y en a, malheureusement, les exemples commencent à être trop nombreux. Je crois qu'il est temps de s'inquiéter sur le traitement médiatique, sur les sujets qu'on nous impose aujourd'hui dans notre société et sur tous ceux qu'on est en train d'éviter. Par exemple, je pense à la casse sociale, je pense à toutes ces grèves, je pense à toutes ces luttes qui sont sur le terrain, sur l'artificialisation des sols, sur les luttes écologiques, sur ces personnes qui sont en train de perdre leur emploi alors que là-haut, leur entreprise fait des dividendes et est en train de s'engraisser et en train de toucher des fonds publics pendant que derrière, c'est du chômage, c'est de la précarité, c'est tout ça. Je crois qu'il est temps de s'inquiéter. Notre démocratie, on a parlé de 6e République, je crois qu'aussi il faut parler des médias. Et donc vraiment, je vous recommande ce livre que même moi, je vais me remettre là ce week-end parce que je crois qu'il est encore d'actualité aujourd'hui.
Merci beaucoup Julie, c'est vrai que c'est un thème assez intéressant. De mémoire, il y avait eu un reportage aussi sur Vincent Bolloré qui s'appelait « Cet ami qui vous veut du bien » ou quelque chose comme ça. Je crois que ça avait été diffusé sur Arte et c'était assez édifiant, effectivement, merci beaucoup. Aminata, toi, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît ?
Alors aujourd'hui, on enregistre l'émission, on est le 26 juin et aujourd'hui, c'est la Marche des Fiertés de Paris. Donc la fierté LGBT de Paris et c'est vrai que je pense que c'est encore des questions qui se posent et qui sont importantes. Alors pour expliquer vite fait l'historique, la marche des fiertés, ça vient des émeutes de Stonewall qui ont eu lieu aux États-Unis en 1969. Donc descente de police à l'époque et manifestation pour rétorquer à cette descente de police. Mais même si on a eu plusieurs des descentes, mais c'était celle-ci qui a été l'acte fondateur des marges et fiertés. Et c'est vrai que je pense qu'à l'heure actuelle, alors que ça soit même en France et ailleurs dans le monde, les droits LGBT ne sont pas forcément quelque chose qui sont présents. Alors, on a encore 11 pays où il y a la peine de mort quand on est homosexuel. On a la Tchétchénie qui fait un génocide, faut le dire aussi comme ça, sur les personnes LGBTI+. Et même quand on se rapproche, hein, que ce soit la Hongrie avec sa loi récemment, ou bien la Pologne avec ses zones anti-LGBT, et même quand on, alors sans comparer, hein, mais en France, où même si elle est en cours d'études, mais pendant très très longtemps, on nous a promis la PMA pour toutes, et c'est vrai que ça a traîné en longueur, notamment avec l'ancien gouvernement. Voilà, c'est un sujet, je pense, alors déjà qui me tient à cœur, qui, je pense, est important. On est sur le mois des fiertés en ce moment. Et voilà, je pense que c'est important de réaffirmer ses droits et de faire en sorte que ses droits s'améliorent. Voilà.
Merci beaucoup, Aminata. C'est effectivement un combat qu'il faut mener sans cesse au quotidien et il ne faut surtout pas baisser les bras. Merci beaucoup. Enfin, Léa, toi, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît ?
Vous m'entendez ? Oui, ok. Du coup, bah, pour recouper avec l'introduction où je te parlais d'Angela Davis, je terminerai en parlant de Michelle Obama. Donc oui, c'est de Becoming, Devenir, le livre qu'elle a sorti suite à la fin du mandat de son époux. C'est un livre qui m'a touchée parce que ce que j'ai aimé, c'est qu'elle raconte un peu son histoire, mais vraiment dans le détail, comment est-ce qu'elle a évolué, comment elle s'est construite, et elle le parle en étant dans une classe moyenne modeste, mais pas classe forcément pauvre. Et ce que j'ai aimé, c'est que je me suis vue en elle, dans le sens où on nous parle souvent des personnes qui sont en très grande précarité ou des personnes qui sont en très grande richesse, mais on oublie souvent ceux du milieu qui eux aussi se retrouvent à payer énormément de choses. Je pense à mes parents typiquement, qui on n'est pas les plus riches, mais on n'est pas non plus les plus pauvres. Et c'est souvent cette classe-là qui paie les pots cassés, que ce soit au niveau des impôts ou des aides, etc. Et en fait, on se retrouve souvent, nous aussi, dans des situations complexes ou de souffrance, et de lire son livre où, bah, du coup, elle explique qu'elle s'est battue, elle a travaillé, elle a réussi à devenir avocate, elle a réussi à rentrer dans un grand cabinet parce qu'elle était déterminée et parce qu'elle y croyait et parce qu'elle était optimiste. En fait, c'est ça qui me porte et qui me pousse, moi, tous les matins à me dire « Crois en quelque chose, Léa, tu peux y arriver. » Et que toutes les femmes, en fait, doivent croire en des choses parce que ça va marcher, même si c'est dur. Même si on nous en met plein la tête, même si quand on marche dans la rue, qu'on va à la marche des fiertés, que des personnes elles nous bassinent, même si quand on va sur un tractage, les gens ils nous insultent par rapport à notre étiquette politique, ça va marcher, ça peut marcher. Donc, c'est en lisant ce genre de choses et en étant inspirante pour moi que j'espère pouvoir devenir inspirante pour les autres, et que toi, Léa, tu es inspirante pour chacune d'entre nous parce que tu nous permets de passer sur ton podcast. Et comme je t'ai dit, j'aimerais bien te poser la question, qu'est-ce que ça te fait à toi de réaliser ce 33 ou 34e épisode avec nous comme centième femme. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé effectivement à ce 33e épisode de Popol, qui est donc l'épisode qui va clore la première saison et qui permet effectivement d'avoir donné la parole à 100 femmes pendant quelques mois depuis le lancement de la première saison qui était en novembre. Donc, écoute, pour répondre à ta question, ça me touche beaucoup. Je suis très heureuse parce que c'est pas toujours facile, mais c'est beaucoup de bienveillance, c'est beaucoup de retours très très positifs. Et moi, je trouve ça génial. En fait, j'ai plein de nouvelles amies, surtout dans la période qu'on a traversée. J'ai rencontré plein de femmes absolument fantastiques que je ne connaissais pas, parce que, je le précise, au moins 90% des intervenantes sur Popol, je ne les connais pas. Je fais des appels à participation sur les réseaux sociaux. Parfois, ce sont aussi des personnes qui ont de la visibilité médiatique, mais qui me proposent et qui me demandent s'il est possible d'intervenir. Donc, je les connais, je peux mettre un visage sur leur nom, mais je ne les connais pas personnellement, je ne leur ai jamais parlé, et c'est toujours merveilleux. Je n'ai jamais eu aucun problème, donc je dois le dire, c'est une expérience qui est très enrichissante, parce que je ne m'attendais pas à ce que ça devienne une communauté, en fait, et que les participantes de Popol se rencontrent entre elles, continuent à se parler, je les vois qui interagissent sur les réseaux sociaux, je trouve ça assez génial. Je pensais vraiment pas que ça... J'avais pas du tout anticipé cet aspect-là. Et puis voilà, donc je suis très heureuse d'avoir pu mener à bien ce projet. L'enjeu de la deuxième saison, ce sera de pouvoir trouver de l'argent pour pouvoir vraiment produire cette saison, parce que je rappelle que toute la première saison a été produite grâce à une campagne de crowdfunding sur laquelle j'ai pu lever 5000 euros. Alors, notamment le financement de la première saison, mais aussi le lancement, parce que ça, c'est très chronophage et cher. Mais j'ai eu la chance d'être entourée de beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup aidé. J'ai été très touchée du soutien aussi. Donc voilà, l'enjeu, ça va être de savoir comment on fait pour la deuxième saison, en espérant que ce ne soit vraiment pas la dernière non plus. Et on reprendra, si tout va bien, en septembre. Et en tout cas, merci, parce que c'est grâce à vous, en fait, que Popol existe. Sans ces intervenants, Popol, ce serait absolument rien et ça aurait aucun intérêt. Donc, je suis très heureuse et j'espère effectivement que ça peut permettre de changer les choses, non seulement de promouvoir la place des femmes dans les médias, lutter contre l'invisibilisation, mais encore plus, moi, ce que je cherche à faire, c'est donner de la parole aux invisibilisés, les invisibilisés dans une certaine mesure, c'est-à-dire que essayer de donner la parole à ces femmes qu'on n'entend jamais, qu'on n'a jamais entendu, et très souvent, pour beaucoup de femmes, Popol, c'est une première médiatique. Alors, c'est pas, bien sûr, c'est pas le JT de France 3, mais il y a quand même une petite audience, une audience qui est là, qui écoute attentivement, que je remercie aussi. Et voilà, donc c'est un objectif que je suis arrivée à atteindre dans une certaine mesure, en me disant 100 femmes, c'est bien, c'est substantiel, et surtout beaucoup de premières, donc c'est assez cool. Et qui en plus se passe très très bien, toujours. Donc voilà, et merci à vous toutes, merci de votre soutien, voilà. Et puis merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. On va faire une petite pause du coup entre juillet et août, il faut que je me concentre sur un autre projet qui est celui de la rédaction d'un ouvrage sur la question de la place des femmes en politique. Et Aminata et Léa ont déjà participé parce qu'on avait déjà eu des échanges pour en parler. Julie, si ça te ferait plaisir de me parler de ton engagement politique, avec et de plaisir. Ton histoire, ce serait vraiment génial. Et puis toutes celles qui nous entendent aujourd'hui, j'essaie de récupérer des témoignages, j'en ai plus de 30. Donc ça commence à être substantiel et je commence vraiment à comprendre ce qui bloque. Mais j'ai pas encore des solutions. Voilà, donc c'est ce sur quoi je vais me pencher pendant ces 2 mois. Je vous embrasse, merci d'avoir écouté Popol, merci de votre fidélité et on se dit à bientôt en septembre.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.